Et oui, le direct se poursuit même en dehors des sentiers battus, puisque Divergence FM, c'est aussi les chemins de traverse. Et c'est Vincent Cavaroc, ladies and gentlemen, Vincent Cavaroc qui nous rejoint sur le plateau de Divergence FM.
Bonjour, chère Divergence, chère Divergence, avec le grand plaisir de recevoir Liliane Schaus, directrice du Zest Dance, grand festival des grands temps forts du mois de juin et de même de l'année entière en Languedoc-Roussillon au niveau de la danse contemporaine. Le festival débute samedi 13 jusqu'au 18 juin avec un gros programme. Et pour commencer, bonjour Liliane.
Bonjour.
Alors, vous commencez votre édito en demandant ce qu'apportent les danseurs en cette période de crise. Alors, est-ce que la programmation du Zest Dance 2008 apporte-t-elle une réponse à cette question ?
Peut-être pas une réponse, mais en tout cas une interrogation, une préoccupation des artistes, je pense, qui sont... en face quand même avec ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe actuellement et qui chacun apporte leur façon de réagir en tout cas par rapport à cet état de crise, même si ça touche pas encore tout le monde, mais enfin bon, les artistes sont quand même très, très préoccupés par ça. Donc effectivement c'est une programmation que je pourrais dire un peu politique entre guillemets, dans la mesure où un peu le fil rouge c'est le rapport entre l'individu et la cité. Ça commence d'ailleurs avec City Maquette qui est quand même aussi la place de l'individu dans la cité, c'est sur l'opéra de Heiner Goebbels, donc avec Mathilde Monnier en collaboration avec Montpellier Danse qui nous a fait un beau cadeau. Et surtout Mathilde Monnier avec ce superbe projet et puis des populations, la population d'Uzès et de Montpellier qui se retrouvent dans ce projet. Je trouve ça une très très belle histoire. Et on termine avec Tania Carvalho qui elle s'inspire de Métropolis, de Fritz Lang, donc qui sont aussi les rapports de pouvoir et la façon dont les individus sont manipulés par le pouvoir. C'est quand même ce qui nous arrive aujourd'hui.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous sentez globalement avec tout ce que vous voyez tout au long de l'année, que ce contexte de crise influence un petit peu les esthétiques en présence ?
Je crois que oui, ça influence en tout cas une sorte d'état d'urgence, peut-être plus qu'avant, où on était, les artistes ne travaillent jamais dans la tranquillité, mais dans une sorte de confort quand même, en France en particulier. À l'étranger, c'est une autre histoire, notamment au Portugal, où il y a des artistes qui, vraiment, eux, travaillent vraiment dans l'urgence. Et donc, je pense que ça quand même, ça définit des formes esthétiques et des formes et des façons aussi de danser, d'être sur le plateau, qui sont plus dans l'urgence, dans l'immédiateté, dans une sorte de résistance aussi, qui notamment dans le spectacle d'Alain Buffard par exemple, Selvenosos, où c'est quatre autoportraits, mais où chacun effectivement, ça a à voir complètement avec ce qui se passe aujourd'hui, où chacun répond à sa façon. Avec il y en a un qui a son kit de survie, une autre qui se réfère à des textes philosophiques, et un troisième qui est plus dans les obsessions sexuelles, mais chacun réagit soit de façon intime, soit dans son rapport justement au monde. Et donc ça provoque effectivement une forme de présence sur le plateau, je pense.
En termes de production aussi, ça provoque des choses. On voit l'émergence d'énormément de solos et le festival va faire écho aussi en programmant pas mal de solos. Et c'est peut-être une forme qui est directement liée à une période beaucoup plus difficile pour produire aujourd'hui.
Oui, parce que finalement, tout le monde se réfugie un peu dans cette forme-là. C'est la moins chère, effectivement. Mais c'est aussi peut-être... Là, par exemple, dans la programmation du Zest Dance, on a demandé à 6 jeunes chorégraphes européens. Là, c'est plutôt une commande, effectivement, on leur a demandé. Mais c'est aussi une question de moyens, parce qu'on n'a pas les moyens de leur payer des grosses productions. Donc, on leur a proposé de faire un solo ou un duo. Et c'est une forme quand même qui est difficile, contrairement à ce qu'on pense, parce que c'est une mise à nu d'un interprète sur un plateau, il n'a rien pour s'accrocher. Quoi. C'est quand même c'est un exercice qui est très difficile.
Et justement, ce projet, c'est le projet Looping, je pense, auquel vous faites référence, cette commande, qui est un vrai projet européen. Et en cela, et c'est pas uniquement ce projet, mais Uzès a gagné aujourd'hui une réputation d'un vrai travail, un vrai projet, un vrai festival européen, à dimension européenne.
Oui, je pense que c'est aussi par le fait, par tout le travail qui a été fait avant aussi, hein, par Didier Michel, parce qu'il y a toujours chaque année, il y a eu un coup de projecteur sur un pays européen. Et là, on a structuré ça de façon différente en faisant un vrai partenariat avec Berlin, qui est une ville capitale et un laboratoire, et le Portugal, où je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, et puis en invitant en même temps des artistes de Lituanie, de Turquie, de Roumanie, non pas de Lituanie, d'Estonie, pardon, de Tallinn. Et effectivement pour donner une dimension européenne, mais aussi pour permettre tout ce brassage et que les artistes d'ici aussi se rencontrent des artistes dans ces pays-là et que ça repositionne les choses aussi différemment.
Alors changement d'échelle de l'Europe, on passe à la région. Pour la première fois, on le disait tout à l'heure pour le projet de Mathilde Monnier, Il y a un partenariat qui se fait avec le Festival Montpellier Danse. On pouvait imaginer que, est-ce qu'il y avait la place ? À une époque, on pouvait se poser la question, est-ce qu'il y a la place pour deux festivals de danse contemporaine dans le territoire ? Et aujourd'hui, on voit que vous travaillez vraiment main dans la main.
Oui, tout à fait. On travaille main dans la main, on a fait des collaborations moins importantes que cette année. Cette année, vraiment, c'est effectivement Montpellier Danse qui nous a proposé de participer à ce projet City Maquette. Et les années précédentes, on avait coproduit ensemble, donc à des hauteurs différentes en fonction de moyens, Hélène Catala qui avait effectivement présenté sa création à Uzès et ensuite l'avait présentée à Montpellier. Donc c'est vrai que c'est une... Moi, je pense que c'est... On a chacun des identités différentes. Nous, on est un festival... à beaucoup plus petite dimension, qui est plus sur l'émergence, l'expérimental. Et puis Montpellier Danse, c'est un festival qui n'a plus à... Enfin, qui est un grand festival de danse au niveau européen et international. Donc on est dans des endroits différents. Et c'est bien de pouvoir travailler ensemble.
Alors aujourd'hui, le festival Uzès Danse est un temps fort, le temps fort de la programmation, d'une programmation à l'année à Uzès, mais ce n'est pas le seul temps, c'est-à-dire que tout au long de l'année, aujourd'hui, il y a une activité en termes de danse à Uzès à travers le centre de développement chorégraphique. Justement, quelle forme ça prend à l'année, ce travail ?
Alors ça prend la forme effectivement de résidence à l'année avec des artistes qui viennent pour travailler sur leur création. Ces résidences se font en partenariat parce que nous n'avons pas de lieu dans lequel nous pouvons accueillir ces artistes. Donc on fait des partenariats avec notamment le CCN de Montpellier, avec le Théâtre de Nîmes, avec la scène nationale d'Alès, avec le Cratère. Et donc ça permet aussi de toucher d'autres publics et de faire circuler en fait les publics sur ce territoire. C'est tout à fait passionnant. C'est logistiquement un peu plus compliqué, mais... Donc indépendamment de ces résidences, on fait tout au long de l'année aussi un travail dans les écoles, dans les lycées. On a la chance d'avoir un lycée des métiers d'art avec des artistes en puissance qui fabriquent des choses tout à fait, enfin des meubles et des tissus. Donc on travaille avec eux et avec l'hôpital psychiatrique. Donc on fait un travail toute l'année. On amène nos spectateurs voir d'autres spectacles dans les théâtres des environs et on fait des conférences aussi sur l'histoire de la danse avec Geneviève Vincent pour... permettre au public de comprendre l'évolution de la danse.
Ça, on va le retrouver tout au long du festival également, parce qu'il n'y a pas que les spectacles qui sont programmés, il y a aussi tout un travail d'accompagnement envers les publics. Ça passe effectivement par ces conférences, et ça passe aussi par un rapport pratique, notamment avec le Feldenkrais.
Tout à fait, avec un atelier Feldenkrais qui est quotidien, qui est dirigé par Gérard Mayen. Et Gérard Mayen fait aussi un atelier qu'on a on en parle après, donc c'est après le spectacle d'Alain Buffard. Il propose aux spectateurs de venir le lendemain discuter avec lui pour échanger leurs impressions, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Et tous les soirs, après pratiquement, pas tous, mais presque tous les spectacles, on a le quart d'heure d'après, donc c'est un petit débat rapide pour que les spectateurs puissent s'exprimer juste après le spectacle, et ça on le fait aussi avec Geneviève Vincent.
Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer un festival de danse qui se passerait de tous ces dispositifs de médiation qui sont autour des spectacles ?
Non. Je pense
clairement
pas.
Non.
Non, parce que c'est vrai que la danse est contemporaine est toujours un art difficile entre guillemets d'accès parce que c'est un peu comme l'art contemporain. Souvent, le public a peur de ne pas comprendre alors que qu'il comprend tout. En fait, il suffit de se laisser aller, de rester sensible à l'écoute et chacun peut comprendre. Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est une sorte de peur comme ça. Et je pense que toutes ces actions de médiation permettent effectivement de mettre le public plus en confiance.
C'est un public à dominante d'Uzès ou vraiment aujourd'hui ce public est très métissé ?
C'est 60% quand même d'Uzès et puis 40% qui viennent de la région et puis il y a aussi à peu près 10% du public qui vient de l'étranger en fait.
Pas mal. Dernière question, niveau personnel, quels sont pour vous les coups de cœur un petit peu dans la programmation? C'est une question de forme de piège.
Ils le sont tous, parce que c'est comme ça que je choisis les spectacles. Les coups de cœur, ce que je pourrais dire, c'est effectivement Tania Carvalho, parce que c'est une jeune chorégraphe portugaise que j'ai découvert il y a 2 ans, qui est venue en résidence, qui est quelqu'un comme ça de très intériorisé, qui ne parle pas de son travail, donc j'avais beaucoup de mal à essayer d'imaginer ce qu'elle pouvait faire. Et quand j'ai vu son spectacle, quand j'ai vu sa création cet automne, elle présente son spectacle à la fin du festival, Et quand j'ai vu son spectacle au Portugal en automne, j'étais complètement bouleversée parce que c'est d'une précision, d'une écriture très, très forte. Et c'est vraiment une grande artiste. Je crois qu'elle a l'étoffe d'une grande. Et donc, ça a été une grande découverte. Ouais.
Merci Liliane. Tania Carvalho, c'est justement le jeudi 18 à 22h au Jardin de l'Évêché en clôture du festival. Un festival qui commence dès le 13, donc samedi, du 13 juin au 18 juin. Et c'est la 14e édition du Zest Dance. Merci à vous tous. Gilles, un petit mot pour conclure.
Alors pour conclure, on vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h, place du marché aux fleurs sur la terrasse du Café de la Mer, avec comme invité Louis Seben de Divine pour un petit set acoustique avant qu'il se rende au Rockstore pour le concert de soutien à l'association Murmurlement. Le général Alcazar, Patrick Chénière sera là avec Natiot. Nous aurons peut-être des musiciens de Foro qui viendront au micro, en tout cas de Marta Marinho, mais peut-être aussi pour un petit live acoustique. Et puis nous aurons les Early Puppets, les Cristaux Liquides et Garys and the Debug Tentative and the Garys qui viendront, trois groupes en musique libre sous licence Creative Commons. Ça c'est pour la partie musique libre de Divergence FM. On se retrouve donc à 18h, place du marché aux fleurs. Bon après-midi à l'écoute des programmes de Divergence FM.
Difficile pour certains et facile pour certains.
Ah ouais, on peut dire ça.
On va essayer d'avoir une conversation sérieuse.
Je vous jure de vous expliquer.
Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi.
Dis-le-moi, on parle.
De quoi tu veux jouer?
Avez-vous perdu votre temps?
Divergence FM a besoin d'un appui significatif de ses auditeurs et auditrices, de tous les artistes, diffuseurs culturels, acteurs du logiciel libre, des élus locaux, nationaux et européens, de la communauté universitaire et de la recherche scientifique, des syndicats, des PD, des gouines, des trans, des hétéros, des putes, des ministres, des toxicomanes, des végétariens, des retraités, des gastronomes, des immigrés avec ou sans papier, des écologistes, des anglophones, des rêveurs, des bluesmen, des ethnologues, des argentins, des vénézuéliens, des brésiliens, des musiciens, des africains, des perses, des vignerons, des portugais, des littéraires, des rappeurs, des punks, des jinks, des belettes et des renards, des cacationnistes, des jazzeux, des conteurs, des acteurs, des financiers, des sportifs, des rationnels, des idéalistes, des adorateurs du fromage de chèvre, des ouvriers, des riches, des très riches aussi et même des pauvres comme nous. Moi, Mario Aubert, écrivain célèbre, je soutiens Divergence FM. Voilà. Oui, et c'est à Divergence FM que nous avons fait avec toutes les filles de la compagnie notre première radio il y a 10 ans de ça. Voilà, merci pour tout.
Toute l'équipe de La Langue du Chat s'associe à la campagne de financement de Divergence FM et vous offre ce spot.
Bonjour Coralie, vous avez quelque chose à dire?
Et oui Jérôme, pour le plus grand bien de vos oreilles, financez Divergence FM.
Et oui Coralie, Divergence FM a besoin d'un appui significatif de ses auditeurs et auditrices.
De tous les artistes, diffuseurs culturels, acteurs du logiciel libre.
Mais aussi des élus locaux, nationaux et européens, de la communauté universitaire et de la recherche scientifique, des syndicats.
Et oui, sans oublier, des PD, des gouines, des trans, des hétéros.
Et j'ajouterai des putes, des ministres, des toxicomanes, des végétariens, des retraités, des gastronomes,
des immigrés avec ou sans papier,
je vous présente toutes mes confuses,
des écologistes, des anglophones, des rêveurs
et des bluesmen, des ethnologues, des argentins, des vénézuéliens, des brésiliens, des musiciens
et des africains, des perses, des vignerons, des portugais,
des littéraires, des cinéphiles, des rappeurs, des punks, des geeks,
et oui des geeks Jérôme, et des belettes et des renards, des cacationnistes, des jazzeux, des conteurs, des acteurs,
mais aussi des financiers, des sportifs, des rationnels, pourquoi pas des idéalistes, des adorateurs du fromage de chèvre, et j'en suis Coralie.
Et oui, des ouvriers, des riches, des très riches aussi.
Le multimilliardaire Bill Gates.
Bill Gates.
Bill Gates.
Et même des pauvres, comme nous.
Ah, Coralie.
Jérôme.
Toutes les infos sur cette campagne de financement, divergence-fm.org.